Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Aujourd'hui, nous poursuivons avec les 10 erreurs à éviter quand vient la dispute. C'est la suite de la semaine dernière. Bonjour, nous avons choisi de faire la suite, enfin d'autre cas de faire ce sujet en deux fois parce que déjà la semaine dernière, on avait largement dépassé le quart d'heure et qu'on était à la quatrième, il en manquait encore quelques-unes pour arriver à 10 bien entendu. Je vous laisse faire le calcul. Donc, on a vu la semaine dernière qu'une des premières erreurs, c'était d'employer des noms d'oiseaux pendant la dispute, insulter son conjoint et traiter de ceci et de cela. Deuxième erreur, c'était de fouiner dans le passé, non pas en se disant qu'il y a des choses à apprendre dans le passé, parce que c'est important d'utiliser le passé pour comprendre le présent, mais pas pour asséner le passé sur la tête de notre conjoint. Troisième erreur à éviter, on avait dit, c'était de cibler les personnes étrangères, donc les personnes étrangères qui sont en relation avec notre conjoint, donc on va utiliser sa mère, son frère, son père, pour dire « t'es comme ta mère, de toute façon », etc. Voilà, ce genre d'erreur est gravement à éviter, même d'utiliser ce qu'on a fait pour un enfant ou autre, parce que ça va aggraver généralement la dispute. Et on s'est arrêté sur le quatrième point, qui était d'exagérer la réalité, une manière de se donner plus de poids dans la remarque qu'on est en train de faire à notre conjoint. Dans chacune des erreurs à éviter, j'ai pris soin de m'arrêter sur un objectif, de manière à pouvoir mettre en évidence ce qui nous motivait dans notre choix d'être dans cette démarche déviante en approchant la dispute. Attention, on avait bien dit aussi que la dispute était nécessaire. Enfin, le conflit est nécessaire, ça c'est le sujet de fond. La dispute, c'est la forme. Donc si votre conjoint estime avoir besoin d'employer une forme avec un volume plus important pour être sûr d'être compris, c'est qu'il estime que c'est nécessaire. Et parfois, je dirais même que dans le couple, oui, on peut considérer comme étant nécessaire certaines disputes et non pas certains conflits uniquement, c'est-à-dire conflits de fond. Ça permet de mettre certaines choses en relief. Aujourd'hui, on continue avec le cinquième point, la cinquième erreur à éviter quand vient la dispute. Et je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, c'est l'erreur qui consiste à fuir les torts partagés. Vouloir faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Et évidemment... à son conjoint, c'est le but, c'est une manière de viser, c'est là l'objectif, le gagnant-perdant. En fait, on va veiller consciencieusement à faire en sorte que le conjoint estime qu'il est perdant. C'est à cause de toi que j'en suis là. En fait, c'est vraiment toi qui es le responsable ou le fautif dans la situation. Ce qui serait mieux, c'est de faire que chacun porte sa responsabilité. Parce que à vrai dire, de manière rationnelle, je ne connais pas de conflits dans lesquels seulement un des conjoints est responsable. Alors certains vont dire, mais si, ça existe, parce que ma femme, voilà, je vais prendre le cas cliché un peu courant, c'est ma femme qui a fait ceci, qui a fait cela, je lui avais demandé ceci et cela, elle ne l'a pas fait correctement, donc c'était quand même normal qu'on se dispute. J'avais donc raison. Il y a ça qui tapit derrière cette démarche-là. Alors, contrairement à ce que d'autres disent, que vous pouvez trouver dans certains bouquins, je dirais que oui, vous pouvez avoir raison et l'autre peut avoir tort. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tort et que votre conjoint a raison. Seulement, au moment du conflit, quand la charge émotionnelle est présente en plus et qu'on est donc non plus dans un conflit mais dans une dispute, plus encore s'il y a de la colère, qu'il y a une déception forte, etc., c'est pas à ce moment-là qu'on est en mesure de savoir si on a raison. D'autre part, ça n'est pas du tout aidant dans le conflit de se poser la question de savoir est-ce que j'ai raison ou est-ce qu'il a tort ? Absolument pas, parce qu'on est dans une approche qui devient de plus en plus irrationnelle, puisque plus la charge émotionnelle est importante et plus l'approche relationnelle devient irrationnelle. Mieux vaut donc abandonner cette approche-là de dire qui a raison, qui a tort, et travailler dans une dynamique dans laquelle on va avoir les torts partagés. Puisqu'on a des torts partagés, eh bien, on va se rendre compte qu'on va avoir le point de vue de l'autre comme un élément intéressant dans ce conflit. Et puis, on va, en plus, parce qu'un lecteur partagé, forcément arriver à un moment, même si c'est en décalé par rapport au moment du conflit, où on va demander à l'autre de recevoir nos excuses. Et si c'est grave, on va lui demander pardon. C'est à l'autre de définir si c'est grave. Hein. Je rappelle que ce n'est pas moi qui détermine si c'est grave ou pas pour l'autre. L'autre me dit que c'est grave. Je dis, mais non, tu dis que c'est grave, mais c'est rien du tout. Ça, ça ne compte pas. C'est ce que l'autre estime dans sa douleur, dans son échelle de douleur grave qui détermine ce que c'est grave. Je ne m'arrête pas là-dessus. J'ai déjà parlé de grave ou pas grave. Vous pouvez aller réécouter l'émission qui est sur ce même blog Couple Heureux ou en podcast, comme bon vous semble. En tout cas, vous pouvez comprendre que vous avez besoin chacun de découvrir à quel point vous avez besoin de prendre en charge votre responsabilité, de ne pas espérer que ce soit l'autre qui soit responsable et que vous n'êtes que la pauvre victime qui a subi la situation. Non, vous êtes co-responsables tous les deux, généralement. Et puis, comme j'ai dit, oui, parfois, il arrive qu'il y en ait un qui ait tort et l'autre qui ait raison, mais on n'est pas en situation d'évoquer ça à ce moment-là. Et peut-être que c'est même inopportun d'envisager cela dans la mesure où l'intérêt est du couple est pour moi prioritaire et à considérer vraiment comme étant suprême. Sixième erreur à éviter quand vient la dispute, eh bien, c'est de penser que c'est à l'autre de faire le pas. Ah oui, c'est lui qui a débloqué, donc c'est à lui de faire le pas, c'est lui qui a commis l'erreur, c'est lui qui a fait l'oubli, donc c'est à lui de faire le pas. Alors l'objectif n'est pas très agréable à entendre, mais en fait, il est de se débiner, quoi, de se dire qu'on préfère, pour son propre orgueil personnel, que ce soit l'autre qui prenne la responsabilité de faire le pas. Bah oui, mais sur quelle base ? Pourquoi c'est à l'autre de faire le pas ? Comment déterminer qui devrait faire le pas le premier, en fait, quelque part ? Est-ce qu'on fait ça sous forme de galanterie, en disant voilà, que les femmes fassent le pas d'abord, ça arrangerait tous les hommes ? Et puis, où est-ce que... Non, en fait, je vais le faire de manière très, très sérieuse. Il n'y a pas de règle pour faire le pas. Vous pouvez utiliser un jeu, peut-être, si bon vous semble, en vous disant, voilà, une fois sur l'autre, on fait le pas, ou pour éviter que ce soit toujours moi qui fasse le pas, qu'on ait l'impression de subir cette injustice. D'ailleurs, j'ai prévu d'enregistrer une émission sur cette impression de disparité de justice dans la vie conjugale. Trouver un moyen soit de vivre une parité en vous disant ben voilà, les jours pairs c'est toi qui fais le pas, les jours impairs c'est moi qui fais le pas. Attention, les petits filous qui vont se dire allez, puisque les jours impairs c'est elle qui fait le pas, je vais essayer de ne me disputer que les jours impairs. Non, ça marche pas comme ça. Mais trouver un moyen pour qu'il y ait une parité si vous avez besoin d'une parité. Mais cessez de faire preuve de gaminerie en imaginant que c'est à l'autre de faire le pas et de faire preuve d'un orgueil déplacé, surdimensionné, en vous disant que vous n'avez pas à faire le pas. Ce n'est pas celui qui a eu tort qui doit faire le pas, parce qu'on vient de dire qu'il n'y a pas de question de tort ou pas tort. Ce n'est pas le moment d'envisager ça. Donc, trouver un moyen pour faire en sorte de faire le pas et d'aller dire « Écoute, je suis désolé, excuse-moi, etc. » Pour ma part, à chaque fois il y a conflit, il devrait y avoir un pas fait d'un côté ou de l'autre, non pas forcément de celui qui a eu tort, encore une fois, j'insiste, mais le pas de la réconciliation. Ce n'est pas forcément pour présenter des excuses, mais c'est pour dire, allez, on avance, qu'est-ce que tu en penses ? Où est-ce que tu en es dans ta souffrance ? Et qu'on soit en mesure de faire ce pas pour commencer à reconstruire ou à continuer à construire. Septième erreur à éviter quand vient la dispute, c'est de refuser de différer l'objet de la dispute. Ça veut dire qu'on est en train de se prendre la tête parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Le fiston est rentré beaucoup plus tard que prévu. Moi, je trouve ça inacceptable. Puis ma femme me dit, mais non, ça va, Pascal, écoute, c'est toi qui as eu peur. Non, moi, je ne trouve pas normal. C'est un manque de respect, etc. Et si ma femme se rend compte que je ne suis pas en mesure d'être en maîtrise de moi-même et que c'est plutôt ma peur ou ma colère qui est en maîtrise de moi, c'est génial parce que du coup, on est dans un partenariat. Mon conjoint se rend compte que je n'arrive pas à être en maîtrise. Eh bien, elle va peut-être proposer que l'on diffère. En disant, écoute, j'entends ta souffrance, je te propose de reparler de ça à tête reposée. Qu'est-ce que tu penses de le faire demain soir ? Parfois même de différer la prise de décision par rapport à la situation. Mon fils est arrivé beaucoup plus tard que prévu et j'ai eu très très peur. Je veux prendre une décision sanction. Mon conjoint peut tout à fait me dire, écoute, là je vois que tu es émotionnellement assez chargé, très en colère, déçu et triste. Je te propose de ne pas prendre de décision maintenant, mais de différer ta prise de décision. Qu'est-ce que tu penses de le faire demain, matin, midi ou soir? Voilà. L'objectif, quand on refuse de différer, eh bien, c'est de fuir une nouvelle dispute ou même carrément de fuir le sujet. Une manière de se dire, en fait, je me suis manifesté en mécontentement, en tristesse, en déception, en frustration, en colère, eh bien, j'avais raison, donc je ne veux pas en reparler, je ne veux rien entendre, je ne veux rien apprendre, je ne veux pas, je veux pas évoluer en fait, je veux rester aussi minable que je l'étais avant, et voilà, c'est dommage de se coucher pas moins bête. C'est vraiment, refuser de différer, c'est passer à côté d'une opportunité d'apprendre quelque chose sur soi-même, d'apprendre quelque chose de l'autre, et puis de pouvoir se projeter après avec quelque chose de plus mature. Parce que quand on a différé et qu'on a donc baissé la charge émotionnelle, on voit tout simplement plus clair. Si on se rend compte que malgré l'effet différé, on n'y voit toujours pas assez clair parce que la charge émotionnelle est encore élevée, on peut redifférer. Mais ne redifférons pas 10 fois, quoi. Voilà, on diffère 2 fois, on diffère 1/3 fois, mais après, on se met en face du sujet en disant « Je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de mes actions et de mes réactions. Par conséquent, je vais faire face à la situation sans plus différer et je fais en sorte qu'on puisse en parler à tête reposée. » 8e erreur à éviter quand vient la dispute, c'est justement d'avoir peur de la dispute. L'objectif, quand on a peur de la dispute, c'est de fuir le conflit pour avoir l'impression que notre couple ne vit pas de conflit. Et ça nourrit une fausse croyance qu'on a déjà évoquée lors de la première erreur à éviter en cas de conflit. Parce qu'en fait, on passe à côté de l'opportunité d'utiliser le conflit pour apprendre à se connaître. Se connaître, ça veut dire naître l'un avec l'autre. Je vous renvoie vers l'émission qui s'intitulait « Disputez-vous, mais disputez-vous bien » parce que vous avez tout intérêt à comprendre l'intérêt des conflits, l'intérêt des disputes et l'impossibilité de vivre sans dispute. Donc, si vous avez peur de la dispute, manifestez-le, verbalisez-le, dites à votre conjoint « Écoute, j'ai peur de la dispute, j'ai peur des conflits. » Et prenez connaissance de votre peur pour essayer de comprendre à quel point une peur ne peut pas servir pour prendre une décision raisonnable et pérenne. Une peur est utile pour prendre une décision immédiate. Vous avez peur que le chien vous morde, vous sautez au plafond, vous partez, vous mettez sur la table, vous montez sur un poteau dans la rue, je ne sais pas, que le chien ne vous morde pas. Mais vous n'avez pas, à partir de votre peur des chiens, à construire une attitude qui va vous amener à repérer les poteaux dans la rue de manière à ce que si un chien passait par là, vous puissiez y gravir. Nouvelle stratégie installée dans votre comportement. Surtout pas. Donc, n'utiliser la peur du conflit ou la fuite comme moyen de construction est un leurre. On ne construit pas avec une émotion désagréable qui soit peur, colère, tristesse, honte. La seule émotion avec laquelle on construit vraiment, c'est l'amour. Les autres émotions ont pour objet de nous permettre de nous alerter sur quelque chose qui ne va pas, qui nous déçoit, qui nous frustre, qui nous attriste, qui nous inquiète, qui nous empêche, etc., pour qu'on puisse utiliser l'émotion amour pour construire. 9e erreur à éviter quand vient la dispute, c'est l'emploi de fausses excuses. C'est aussi un moyen objectif de fuir ses responsabilités. Donc voilà, on va utiliser des fausses excuses en disant « Oui, tu sais, j'ai fait ça, mais… » Quand vous entendez que vous avez besoin de mettre cette virgule et ce « mais » à la fin de votre phrase, vous êtes en train de chercher de fausses excuses. Tu vois, en fait, je me suis mis en colère. Oui, je suis désolé, mais quand même, il faut dire que tu as poussé le bouchon. C'est une fausse excuse. Surtout que par rapport à une émotion, quelle qu'elle soit, c'est toujours vous qui êtes responsable de la colère. C'est toujours vous qui êtes responsable de votre émotion, c'est jamais votre conjoint. Vous ne vous mettez pas en colère parce que votre conjoint, vous vous mettez en colère parce que vous. D'accord ? Vous n'êtes pas déçu parce que votre conjoint, vous êtes déçu parce que vous. Vous aviez projeté, fait un fantasme sur une situation, et comme ça ne s'est pas passé comme ça, vous êtes déçu. Ce n'est pas votre conjoint qui vous déçoit. D'accord ? 10e erreur à éviter quand vient le conflit, c'est de ne rien apprendre de soi et de ne rien apprendre de l'autre. En fait, c'est comme si on archivait ce qui s'est passé là, dans le passé, on va l'enfouir, on va peut-être y même mettre des couches et des couches de mousse pour éviter de le ressentir. Et puis on dit, voilà, c'est passé, c'est comme ça, on oublie. Non, n'oubliez pas vos conflits. Et surtout, n'oubliez pas d'apprendre quelque chose de vos conflits. On se laisse croire que ça ira mieux, et que ça ira mieux tout seul, avec le temps. Oui, la chanson dit avec le temps, oui, tout s'en va avec le temps, mais pas les problèmes. Il a oublié de le dire, l'auteur. Avec le temps, les problèmes ne s'en vont pas. Quand vous avez un conflit, et qu'en plus c'est attaché à une valeur, peut-être de l'un ou de l'autre, mais que c'est plus ou moins important dans votre vie conjugale, si vous le laissez là sans rien faire et que vous espérez que le temps y fera quelque chose, vous vous racontez des salades, vous vivez dans le monde de Disney ou des bisounours. Deuxièmement, vous savez, vous pouvez vous préparer à ce que ça vous revienne à la figure à un moment où vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Parce qu'en fait, un conflit non traité va se greffer sur des conflits à venir. Donc, ne rien apprendre de soi et de l'autre autour du conflit, c'est très dommage. Utilisez vos conflits comme des opportunités pour apprendre de vous, pour apprendre de l'autre, pour apprendre du couple, pour apprendre de la relation humaine, pour apprendre à demander pardon, apprendre à reconnaître vos erreurs, apprendre à reconnaître vos limites, apprendre à reconnaître vos besoins, apprendre à regarder votre conjugalité avec plus d'honnêteté, apprendre à découvrir ce que vous ignoriez et que vous avez minimisé peut-être, apprendre à reconnaître que ce que vous avez fait n'est pas forcément aussi bien que ce que vous pensiez, ou bien même c'était top pour vous, mais c'est pas parce que c'est top pour vous que c'est bien pour votre conjoint. Vous avez beaucoup d'opportunités pour apprendre des choses. Donc profitez de ces conflits pour apprendre, s'il vous plaît. Ne tombez dans aucune des 10 erreurs pour quand vous êtes face à une dispute. Aucune. Si vous avez de la difficulté dans une de ces erreurs et que vous avez l'impression d'être embourbé, allez sur la page. Vous n'êtes pas seul pour prendre rendez-vous avec moi de manière à ce que je vous accompagne. Parce qu'il y a des actions simples et accessibles que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte de sortir des ornières de ces 10 erreurs à éviter quand vient la dispute. C'est beaucoup plus difficile d'en sortir quand vous l'avez installé en vous depuis des décennies, depuis des années. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas possible. Si vous voyez que vous avez une de ces 10 erreurs ancrées en vous, attaquez, levez-vous les manches et c'est parti. Allez, je vous souhaite du bonheur. En écoutant cette émission, vous avez appris quelque chose ou vous avez simplement aimé cette émission parce que vous avez trouvé des choses enrichissantes, eh bien partagez s'il vous plaît, ne gardez pas pour vous ce que vous avez appris qui est génial. Deuxièmement, allez mettre vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, Apple Podcast, Google Podcast et mettre des commentaires sur le blog, couple heureux.